Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre, dans la discussion la plus intime et la plus profonde de ma femme d'aujourd'hui, cette femme qui s'est retrouvée enfant de parents divorcés à une époque où la société ne l'acceptait pas encore, contrairement à ce qui se passe actuellement, et qui a en quelque sorte dû s'adapter et adapter son quotidien en fonction de cette situation, tout simplement. Elle nous raconte tout ça.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Salima Mrazli, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Salima Lavasalik?
Bonjour Yasmine, très bien, merci. Et merci pour l'invitation sur ce podcast 100% féminin.
Avec plaisir, c'est un honneur pour moi. Alors Lala Salima, vous décrivez comme éternel enfant du monde.
Exact.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi, Lèche?
Alors, pourquoi? Parce que je suis une grande curieuse, je m'estime assez ouverte sur les choses, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore interagir avec l'humain, et donc j'aimerais et je voudrais garder cet esprit enfant dans tout ce que j'entreprends. Un enfant n'a pas d'a priori, n'a pas de jugement, un enfant est curieux, un enfant joue, il prend du plaisir, il a cette joie de vivre, donc j'aimerais garder cela, même si le quotidien n'est pas toujours évident, mais c'est dans ce sens-là que je m'estime encore
enfant. Voilà, alors, le quotidien n'est pas toujours évident, c'est aussi les interactions humaines qui ne sont pas toujours évidentes, qui ne nous laissent pas forcément cette innocence.
Oui, tout à fait. Ben, il y a l'humain et l'impact de son contexte, etc. Souvent, on essaie de comprendre ce qui se cache derrière ou ce que ça exprime, mais des fois, on essaie aussi d'aborder les choses différemment ou de les comprendre, mais on est face à des limites à un moment donné, et c'est là où ça devient compliqué et ça nous ramène forcément à la réalité, aux impératifs, aux délais, aux trucs. Donc, je dirais un peu plus que ne connaît pas forcément l'enfant, ou peut-être le connaît moins. Et donc là, on est face à des choses, à la réalité, quoi. Mmh. Voilà.
Alors, mais un parcours quand même atypique, parce qu'avec un bac scientifique, et vous dites en fait, j'étais pas très forte en maths, j'étais assez moyenne. Assez moyenne en maths, et pourtant j'ai opté pour un bac scientifique pour ensuite m'orienter vers des études de droit. Pourquoi s'acharner avec les maths pour ensuite ne pas les utiliser?
Tout à fait. Alors, juste pour la petite histoire, j'étais brillante en primaire. Bon, après, il y a eu des petits événements qui ont fait que j'étais de moins en moins bonne sur le plan scolaire. Ma mère était enseignante, c'est-à-dire enseignante de français, et ça aussi, c'est-à-dire j'avais presque un devoir d'être parmi les premiers ou parmi, voilà, j'avais cette contrainte-là assez souvent, c'est-à-dire cette exigence, peut-être sociale ou peut-être que je m'impose, d'être parmi les premiers. Sauf que ça ne se faisait pas vu que je n'y étais pas prête à ce moment-là, plus prête, parce qu'enfant j'étais brillante, j'étais parmi les premiers, et ce n'était plus le cas par la suite. Ensuite, j'estimais que j'avais j'avais un fort intérêt pour tout ce qui est artistique, tout ce qui est culturel. Mais en même temps, je me disais, faire un bac lettres, ça le fait pas. Encore une fois, c'est les a priori. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais faire un bac scientifique et je vais me débrouiller. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et en ayant mon bac, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, je suis pas faite pour des... Voilà, j'avais pas non plus une moyenne extraordinaire pour intégrer, soit la médecine. Bon, ça ne m'intéresse pas en même temps. Mais je ne me cherchais encore. Donc, j'adorais le français. J'aimais écrire. D'ailleurs, j'écris toujours. J'aimais parler, etc. Et je me suis dit, je fais littérature en français. Et en faisant je discutais beaucoup avec mes parents, avec mes amis. Je suis quelqu'un qui se concerte pratiquement tout le temps. Je suis très indécise, donc voilà. Et dans la discussion, je me suis dit, ben tiens, si c'est la langue qui m'intéresse, je peux faire, c'est-à-dire opter pour une formation où il y a et la langue et un contenu.
Et là, notamment le droit.
Français, exactement.
Alors si vous permettez, Salima, on va revenir à certains petits points, moi, qui m'interpellent dans votre parcours. Oui. Quand vous dites, enfant, j'étais brillante, et puis ensuite, j'étais plus prête. Adolescente, j'avais plus envie, j'étais plus prête d'être brillante. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je pense, c'est le divorce de mes parents, j'avais 10 ans. Et puis, forcément, il y a des choses qui changent.
C'est-à-dire la dynamique du quotidien change?
C'est sûr, la dynamique, et puis c'était pas évident à l'époque.
C'était compliqué dans les années 90, justement, ce genre
En fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir des parents qui décident de divorcer et qui sont toujours pas d'accord. C'est ça ce qui est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après ce que je vois, les divorces sont un peu plus consentis. C'est-à-dire on décide d'arrêter et on arrête réellement, mais on continue sur d'autres chantiers. C'est ça à l'époque, c'était pas évident. Qui dit divorce dit conflit. Et c'est quelque chose que je déteste. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aime pas être dans des situations conflictuelles.
Ouais.
Je préfère même céder. C'est-à-dire céder, pas céder dans le sens, c'est-à-dire avoir un mauvais compromis plutôt qu'un bon procès, comme on dit.
Exact. Ça a été compliqué aussi pour vous, au niveau privé, au niveau intime, cette situation? Pour avoir confiance dans l'institution du couple, du mariage, etc.
C'est-à-dire après?
Oui.
Franchement, pas spécialement. Alors, pas spécialement dans le sens où j'ai gardé d'excellents. D'ailleurs, j'ai toujours d'excellents rapports avec mes deux parents. Ils ont été très présents, et l'un et l'autre, même si, c'est-à-dire, ma vie était avec ma mère, mais mon père était omniprésent. Omniprésent d'abord, je pense, par rapport à lui. Mais moi aussi, j'avais ce besoin d'interaction continue avec les deux.
Exact.
Donc même aujourd'hui, c'est mes consultants s'il en veut ou mes conseillers. J'entreprends quelque chose, je vais vers mes parents. J'ai des sœurs aussi. On a grandi 4 sœurs, donc il y a beaucoup d'interactions. Et puis j'ai un petit frère, bon, qui a 22 ans aujourd'hui. Donc voilà. Et sur le plan privé, oui et non. Je n'ai pas senti que ça m'a impacté, mais c'est quelque chose qui reste toujours un peu spécifique. Je sais pas comment vous vous expliquez, mais
j'ai l'impression que c'est pas encore passé cette situation.
C'est clair, ça ne passe. Je pense que ça ne passe jamais.
C'est vrai, même quand on grandit, c'est-à-dire que c'était la petite fille de 10 ans, mais là c'est la femme, c'est la femme qui parle, c'est l'adulte, ça passe pas.
Je pense qu'il y a des situations ou des contextes qui nous ramènent à quelque chose, c'est-à-dire qui rouvrent une certaine blessure. Voilà.
Ouais.
Je pense.
Ouais. Comment on fait pour guérir ce genre de blessure, Salima?
Il faut franchement aller de l'avant, et puis peut-être aussi c'est tout un entourage qui doit y contribuer, c'est toutes les parties prenantes qui doivent y contribuer. Je pense. C'est-à-dire pour faire la paix avec une situation. J'ai l'impression, c'est-à-dire si je dois décrire les situations de divorce, c'est-à-dire qui sont très conflictuelles, c'est une guerre. Et forcément, il y a des dommages collatéraux, il y a des victimes, il y a des, même ceux qui ne sont pas concernés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des médiateurs, il y a tout ça qui. Et à un moment de notre vie, ça revient. C'est-à-dire cette image-là revient. Et surtout, notre impuissance face à cette situation-là à l'époque. C'est-à-dire, on est enfant, on ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement que. Aussi
subir.
Faire le médiateur, parce que ça, je l'ai subir. Et puis, même en tant qu'acteur, on est limité. Et on est limité, et des fois, on est dans des rôles qui nous dépassent. Je pense il faut. Et on fait aussi le médiateur entre nos parents quand il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, c'est-à-dire dans la catégorie adulte. Et donc là, forcément, ça nous fait grandir un peu plus vite.
Plus vite, c'est ça, complètement.
Oui.
On se sent responsable de cette situation, en quelque sorte.
La responsabilité, non.
Non.
Franchement, non. Non, non, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais on se sent peut-être victime d'abord. Mm. Et pourquoi ça nous arrive et pourquoi ça n'a pas marché, on ne comprend pas. Mm. Même si, bon, il y a des indicateurs, il y a des choses, mais on ne comprend pas. Et en même temps, après, on avait le regard de la société. Ça, c'était difficile à l'époque.
À l'époque,
aujourd'hui, ouais. Je pense que c'est plus le cas parce que, c'est-à-dire, je vois qu'à l'école, une majorité, c'est-à-dire, sont enfants de parents séparés, et ça devient un peu normal.
C'est ça.
À l'époque, c'était pas le cas. C'était pas le cas, et puis, et forcément, il fallait faire doublement ses preuves sur tous les aspects.
Alors, justement, aujourd'hui, est-ce que vous dites enfant, on comprend pas, mais aujourd'hui, est-ce que vous comprenez?
Oui. Oui,
ce qui a amené ces deux personnes à se séparer, en l'occurrence vos parents.
Oui, franchement, aujourd'hui, je me dis si on n'est pas à l'aise dans une configuration et si on a envie de faire sa vie autrement, c'est une liberté. Maintenant, c'est une liberté qui est vraiment conditionnée par beaucoup de choses, notamment quand il y a des enfants. Mmh. Voilà, c'est ça ce que... Voilà. D'ailleurs, j'écoutais les autres podcasts et j'ai entendu des témoignages de femmes. Aujourd'hui, si on n'est pas heureux ensemble, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais ou l'un ou l'autre est coupable ou l'un ou l'autre... n'est pas bon dans peut-être il n'est pas bon en tant que mari, mais ça reste un bon père, ça reste une bonne mère, etc. Mais on n'est pas bon ensemble. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on commence à accepter cette réalité-là ou cette approche-là des choses. Ce qui n'était pas le cas avant.
Avant, exactement.
Sauf que quand il y a des enfants, et ça aussi, des enfants aussi en bas âge, ça complique un peu la situation. Mmh.
Complètement.
Voilà.
Et alors, vous dites il a fallu faire ses preuves doublement.
Oui. Doublement, oui.
Doublement, parce que d'abord, la maman est institutrice, enseignante.
Enseignante, donc, elle est prof de français, oui.
Donc déjà, ça met une pression.
Mais non, pour les études, oui.
Pour les études.
Elle est aussi ingénieure, c'est-à-dire il y avait une exigence de correction, de régularité, presque, il fallait être... Pas, je dirais pas parfait, mais presque parfait.
Il fallait faire honneur.
Il y avait aussi une exigence de sérieux. Parce que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que t'es fille de divorcée, tu dois pas faire... Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce regard-là de... Limite, j'avais l'impression d'avoir plus de responsabilité que les autres filles.
Mais c'était dit? C'était verbalisé?
Oui,
ou il l'a ressenti?
Là, c'était formulé, parce que j'ai un père qui est très conservateur, pas très ouvert, mais à la fois très... très regardant sur la société, est-ce qu'elle pense.
Mm.
Et une mère qui, justement, avait un autre avis, je pense que c'est pour ça qu'il
ça a clashé.
Elle, c'est quelqu'un d'affirmé, de déterminé, qui a fait ses choix, et voilà, que je comprends, et puis voilà, qui a décidé un jour que ça n'allait pas, et puis voilà. Mm. Mais qui est dans le challenge, qui est dans la nouveauté, qui est dans dans l'affirmation de ce qu'elle est, indépendamment de ce que pense X ou Y.
Exact.
Voilà, et je pense que j'ai pris un peu des deux, et ça aussi c'est un petit dilemme au quotidien. En même temps, on a envie de faire ça, en même temps, on se soucie des autres. Ça a créé chez moi peut-être un côté un peu plus dans l'empathie que dans la conformité. J'essaie de m'adapter au contexte dans lequel je suis, de le comprendre, de comprendre aussi le parcours de chacun pour ne pas heurter des sensibilités. Je pense que c'est ça, c'est ce à quoi ça m'a un peu servi.
C'est ça, en fait. C'est que finalement, le bon apprentissage de ça, c'est que vous avez ce recul que beaucoup n'ont pas, ce recul de pouvoir jauger une situation, jauger les personnes en face et vous adapter, en fait, au contexte.
Exact, exact, tout à fait.
Alors, j'insiste quand même par rapport à ça, c'est... Pendant longtemps, il a fallu plaire. Mais à quel moment Salima s'est dit « je ne veux plus plaire, je veux être moi-même »
La vérité aussi, je pense que j'ai aussi cette... C'est-à-dire, je suis de nature très, très sociable. Donc, les interactions avec les autres sont importantes pour moi et le regard de l'autre est important. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est conditionné par ça ou bien ça vient de cela, mais j'ai ce besoin d'être, pas d'être reconnue, mais d'être appréciée. J'aime pas, voilà, j'aime pas décevoir, j'aime pas créer de conflits, j'aime pas être à l'origine de situations. Mais toujours est-il, j'aime dire les choses telles que je les vois. Peut-être, j'essaie à chaque fois de trouver un petit compromis, et là, il faut dire que c'est pas. Je pense que je ne suis pas encore arrivée au stade dont vous parlez là, celui que vous avez souligné, parce que aujourd'hui j'ai encore quelques contraintes, forcément quand on a des enfants en bas âge, on est obligé encore de s'adapter à certaines choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à...
J'ai pas très bien compris. Honnêtement, j'ai pas très bien compris.
Alors oui, je sais. Je sais que moi-même, je ne comprends pas tellement ce que je dis, mais bon, je vais essayer de reprendre.
Ok. Mais à mon avis, il y a du sens de derrière.
Oui, j'espère bien. Alors, ta question était est-ce que aujourd'hui, je m'en fous un peu du regard des gens ou
En quelque sorte, exact. Est-ce que oui. Le regard des parents est toujours aussi important? Est-ce que leur approbation est toujours aussi importante?
Alors, on ne parle pas réellement d'approbation parce que j'ai toujours pris mes propres décisions. Sauf que la concertation, le processus d'avant est important pour moi, la démarche. Mais la décision est toujours la mienne. Et ça, la vérité, je l'apprécie. On a toujours été presque autonome et indépendant dans notre façon de voir les choses. J'ai travaillé à l'âge de 19 ans, donc forcément, ça te donne une certaine, une certaine liberté, je dirais, liberté, mais méritée sur tes choix, tes décisions, ce que tu entreprends, ce que tu fais. Et c'était important pour moi. C'est quelque chose que, par contre, je fais valoir tout le temps. Maintenant, le fait de me retrouver dans des contraintes, mais qui sont dues à des situations comme je vous ai expliqué. Je tutoie des fois.
Non, il n'y a pas de problème.
Mais je pense que après ces discussions, on se sent un peu plus proche de de notre interlocuteur. Alors voilà. Donc je disais que aujourd'hui, non, le regard de l'autre ment. Mais j'aime pas vexer l'autre dans l'absolu. J'aime pas être à l'origine de quelque chose. Et je ne dirais pas que je suis conformiste, non, mais je tiens en compte le contexte.
Qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire la paix avec votre parcours de vie?
À faire la paix. Alors, avec mon parcours de vie. Et il faut dire que aussi le fait qu'on se sente un peu fatigué, mais du fait qu'on est enchaîné. Soit des expériences, soit des contraintes, soit des poids de la vie. Peut-être le fait de ne plus avoir de pression. Ça aussi, ça peut être
la pression des parents continue en quelque sorte.
Non, je parle pas de non, pas celle-là. Je n'ai aucune, c'est pas le cas du tout. Mais la pression de la vie. Il faut dire que c'était pas le seul élément difficile dans mon parcours. Il y avait d'autres choses. Et donc là, c'est comme un besoin de faire une année sabbatique de tout.
Ah non, je comprends. Alors, sans indiscrétion, Salima, vous avez quel âge?
Bientôt 43 ans.
Ouais, c'est un peu l'âge auquel on a envie de prendre son année sabbatique, où on a envie de se retourner vers soi, de se concentrer sur soi.
Oui, c'est vrai. Et puis, en fait, j'essaie de faire ça. J'ai un peu fait quelques formations en développement personnel. Ça m'a beaucoup aidée. J'adore ça. C'est-à-dire le processus en lui-même me plaît, indépendamment de la destination. C'est un beau voyage. Maintenant, c'est-à-dire, j'estime que je n'ai pas eu de répit depuis que je suis enfant. C'est-à-dire enchaîner des études, la responsabilité de travailler en études. Je travaillais déjà quand j'arrête un travail. C'est-à-dire, je n'ai pas soufflé, à part quand j'y étais vraiment forcée. Et là, c'était aussi, je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant, ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai enchaîné des grossesses qui n'aboutissaient pas. En 6 ans, j'ai fait 6 grossesses.
D'accord.
Et donc, c'est lourd. Et dans les 6 grossesses, certaines devaient être
alitées.
Avec une obligation, voilà, alitées. Moi, je suis très active, hyper active. J'arrive pas à rester tranquille. Et donc, sur les 6 grossesses, j'en ai eu 2 qui ont abouti au final. Et ça, c'est comment dirais-je, à un moment donné, c'est un peu lourd à gérer.
À gérer psychologiquement.
Exactement, exact. Et en même temps, quand on a des enfants, c'est bon, on est encore dans un engagement éternel. Mmh. Et voilà, donc des fois, j'ai l'impression que j'ai besoin de vacances, de vraies vacances. Quand je dis de vacances, c'est-à-dire...
Moi et moi-même.
Oui, exactement, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous pouvez laisser les enfants avec leur papa? Est-ce que vous pouvez partir? Parce que c'est important, ça aussi.
Aujourd'hui, j'ai des enfants bas âge, oui. Maintenant, ce n'est pas la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que moi, je m'autoriserais à le faire? C'est ça aussi. C'est-à-dire, au-delà de la contribution des autres, etc., est-ce que c'est moi qui devrais lâcher? Ce lâcher prise, c'est à moi de le faire. Et voilà, peut-être en faisant ça que je pense je réponds à la question.
C'est ça, absolument.
C'est un exercice de lâcher prise, j'en suis consciente. Je me dis, c'est le début de quelque chose. Mais il faut que je laisse faire et le temps et le bon Dieu, etc. Et on ne peut pas tout contrôler.
Absolument.
Voilà.
Ben, j'espère qu'en réécoutant notre entretien toutes les deux, ça va vous pousser à pouvoir lâcher prise. Parce que quand on s'écoute parler parfois, j'ai souvent ce retour de la part de mes femmes, elles me disent quand j'ai réécouté, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Là, quand j'ai réécouté, ça m'a fait prendre conscience des changements que je devais faire. Donc je vous souhaite vraiment ça. J'espère vraiment que ça sera comme ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est comme une thérapie qui va pouvoir servir.
Oui, c'est
parce que c'est le but aussi, hein. C'est de partager des parcours de vie. Et c'est aussi de créer des déclics chez les personnes qui nous écoutent, mais aussi chez les personnes qui parlent, qui s'expriment.
C'est clair, important. C'est clair. C'est comme se regarder dans un miroir.
Dans un miroir.
C'est plus profond, oui.
Oui. Salima, la clé est chez vous, hein.
Oui.
La clé est chez vous.
Sûr.
Mais ce qui est très bien, ce qui est très positif, c'est que vous avez déjà repéré les failles. Vous savez où elles sont. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience, c'est magique parce que le plus gros du travail est fait. Après, la clé est chez vous et comme vous dites, ce lâcher prise, c'est à vous de vous l'autoriser et vous dire je peux pas.
Donc, en raccrochant, je vais programmer mes prochaines vacances.
Toute seule.
Tenez-moi
au courant.
Ça va être très court. Peut-être même juste une virée à Tanger, c'est très bien. D'ailleurs, j'y ai pensé. Des fois, juste prendre le train, essayer de quelque chose de différent. C'est-à-dire même dans le processus, qu'il soit différent. Prendre le train, pour moi, c'est quelque chose qui me donne le temps, pour moi, parce que même ce trajet-là, je suis libre, je ne conduis pas, je peux rencontrer des gens. Et pour moi, l'expérience du train est vraiment particulière.
Ouais, ouais, ouais. Et puis avec le Borac, c'est juste une merveille.
Exact.
Vraiment, c'est juste une merveille. Ouais.
C'est essentiel aussi, c'est rester en action et rester conscient aussi de ces réalités, de ces besoins aussi et pouvoir y répondre progressivement, peut-être doucement, mais sûrement.
Mais sûrement, progressivement, exactement. Pour obtenir, il y a une réalité, ce qu'on peut pas perturber non plus. L'environnement dans lequel on vit, il faut amener chouïa le changement, chouïa jusqu'à ce qu'il s'intègre. Mais il ne faut pas culpabiliser. Ne culpabilisez surtout pas Salima. Ne culpabilisez pas en tant que mère, en tant qu'épouse. Et c'est très important, ce n'est pas égoïste, c'est important.
Oui, parce que même pour pouvoir être,
efficace,
au service des autres aussi,
il faut.
On a besoin d'être en forme aussi.
Exactement.
C'est clair. Parce que sinon, on se puise et on s'épuise.
Et
en
on
même
s'épuise.
Temps. Et voilà.
Ouais,
exact.
Ouais, ouais, ouais.
Tout à fait.
Donc, on se tient au courant, Salima?
Ça marche.
Ça a fait. Je compte sur vous.
C'est fini une fois à Tanger.
Ça a fait. Okay. Ça a fait. Parfait.
Merci beaucoup, Yasmine.
Avec plaisir, Salima Amrazli. Merci beaucoup.
C'est agréable de discuter avec toi.
L'Alertech.
À très bientôt.
À très vite. À très vite.
Au revoir.
Merci beaucoup. Prends soin de toi.
Au revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première,
à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.